vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas, mais Philippe Munier ressemble toujours à Philippe Munier, c'est ça qui est bien. Bonjour Philippe.
Quoi que de semaine en semaine je vieillis, bonjour Daniel.
C'est vrai, mais je voulais parler de cette météo où on avait plutôt froid la semaine dernière, et là on crève un peu de chaud, nos plantes on les met à rude épreuve, dites donc.
Elles se ramassent, oui, des gros différentiels de température, mais je pense que la plante est beaucoup plus adaptée que l'être humain à ramasser ce genre de choses-là. Donc elles font, on va dire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Elles sont quand même belles, elles sont quand même en fleurs. Elles grandissent, elles nous font des légumes ou des jolies plantes d'ornement. Donc moi je les trouve plutôt sympas. On leur fait n'importe quoi et elles arrivent quand même à être toujours aussi belles. Merci les plantes.
C'est ça qui est génial, vive la nature, respectons-la. C'est aussi bien sûr le mot d'ordre pour cette émission où on vous accueille jusqu'à 10h.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et on va partir en Ille-et-Vilaine à Orgères avec Patrick pour cette première question. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Philippe. J'ai une question relative à un lilas. J'ai un lilas qui a à peu près plus de 20 ans maintenant, qui est monté à 4 ou 5 mètres de haut, qui fait des fleurs toute l'année, hein, il n'y a pas de souci, enfin toute l'année, pendant toute sa période, mais qui est envahissant parce qu'il commence à frotter contre la gouttière, contre le toit, il est à 2 mètres de la maison, et je me rends compte que les branches que j'ai élaguées l'année dernière parce qu'elles gênaient, il n'y a rien qui repart en fleurs, et je voudrais quand même le réduire considérablement, de façon à ce qu'on puisse avoir accès à une vision sur les fleurs de là où on se trouve et non pas à 5 mètres de haut.
Comment faire?
Est-ce que je prends le risque de le couper, de le rabattre? Est-ce qu'il repartira en fleurs?
Oh là là, doucement. En bois, il y a plein de questions.
Une question en une seule.
Il doit sentir le truc.
On vous sent en tout cas embêté avec votre lilas.
Bon, alors déjà, la première chose, c'est qu'un lilas, ça se taille tous les ans après la floraison. Donc si vous ne l'avez pas taillé depuis 4 ans, il en a profité pour continuer à grandir, tranquille, à vous faire des fleurs effectivement de plus en plus hautes, pas forcément de plus en plus grandes d'ailleurs, au contraire, elles ont tendance à être de plus en plus petites, plus on monte en grimpe en hauteur. Et donc, effectivement, si ça commence à rentrer dans la salle de bain, et à aller gratouiller la gouttière, c'est pas sympa. Donc il faut le tailler. Mais si vous le taillez brutalement, violemment, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit il en meurt, ce qui est quand même grosso modo pour un lilas qui a une vingtaine d'années, on va dire que c'est un tiers de risque, hein, c'est 33% de risque. Et sur les 67 qui restent, il va repartir comme un fou en essayant de récupérer la hauteur que vous lui avez supprimée. Donc, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse non plus. Donc, vous avez plutôt intérêt à procéder en douceur. C'est-à-dire que là, il est en fleurs, normalement, si tout va bien. Et il sent bon, c'est super. Vous prenez l'escabeau dès qu'il a fini de fleurir et vous allez tailler non pas que la fleur qui est fanée, mais vous allez tailler... donc, la fleur des lilas, elle est toujours en bout d'un rameau. Donc, vous allez descendre sous cette fleur, vous allez descendre à 3 yeux sous la fleur. Hein, c'est-à-dire, normalement, vous devriez être à 1 ou 2 yeux au-dessus, donc sur le rameau. Donc, vous allez, en fait, le réduire de pas énormément, de 40 cm peut-être. Mais ça va l'obliger à redémarrer tout un tas d'yeux qu'il n'alimentait plus et qui vont tout d'un coup être réalimentés. Ce qui fait que l'année prochaine, il va avoir un volume de verdure sans prendre forcément plus de volume tout court. Et il va donc refleurir. Et là, vous lui resupprimerez 40 cm et ainsi de suite. Et en le descendant tout doucement comme ça en 3-4 ans, 40 cm par an, c'est quand même, ça commence quand même à faire quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir le ramener à une une hauteur normale pour un lilas, c'est-à-dire, on va dire, un petit 2,50 m, hein, ce qui est tout à fait logique pour un lilas, tranquillement. Et plus vous allez descendre comme ça en douceur, et plus il va être compact, il va être plein de feuilles, ça va être un joli végétal bien, bien épais et bien florifère, alors que sinon, vous risquez de repartir sur les mêmes enquiquinements.
Voilà, donc les conseils.
Et puis, en douceur.
Voilà, et puis pour tous ceux qui ont un lilas plus jeune, voilà, on rappelle que tous les ans, c'est bien de pratiquer une taille. Ça évite
et on n'enlève pas que la fleur. Voilà.
Voilà, donc pour ces conseils que vous avez suivis. Évidemment, merci Patrick. Nous allons à Rennes avec Maria. Bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour tous les deux et bonjour à tous les auditeurs amis des jardins. Voilà mon problème, c'est j'ai des sauges de collection, j'en ai trois, dont la belle, la jolie ribambelle qui est saumonée, qui a été créée par le producteur. Je les ai achetées il y a 2 ans. J'ai également Cavalier d'Alto et Lily Rose. Et alors, je sais que on doit les tailler dans le printemps. Est-ce que c'est le moment? Je voudrais surfacer sans doute. Elles ont séché un peu. Elles ont été tout l'hiver sur ma terrasse plein sud, sous des voiles d'hivernage. Je trouve qu'elles sont un peu sèches aussi, les branches et tout ça. Donc, comment je dois les arroser? Comment surtout les tailler?
Bon, voilà, on va répondre. Vous avez beaucoup de questions hein, ce matin, mais c'est bien. Allez.
Alors, en fait, donc ce type de sauge, hein, sont des sauges donc très très hybridées, très florifères, mais qui ont effectivement, dans la mesure où elles mettent beaucoup d'énergie à nous faire plaisir avec leur belle floraison, elles ont aussi besoin d'être beaucoup taillées de manière à pouvoir redémarrer parce qu'elles vont fleurir sur le bois qui va naître après la taille. Donc plus vous allez avoir de bois et de bois fort, puissant, bien installé, et plus vous aurez une belle floraison. Si vous ne taillez pas, vous aurez une floraison toute triste ou nette, toute maladive. Donc effectivement, on est dans une très bonne période. Vaut mieux toujours attendre au moins la mi-avril pour tailler les sauges, que les froids la petite gelée blanche, tout ça passe quand même rapidement. Donc vous pouvez tailler en enlevant le maximum de bois de l'année dernière, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de bois sec toujours, hein, en fin d'hiver, il y a toujours beaucoup de bois sec, donc n'hésitez pas à enlever tout le bois sec et à rabattre toutes les branches aux alentours de, alors je ne sais pas comment exactement quels âges elles ont et donc quel volume elles prennent, mais en général, une sauge, on peut la redescendre pratiquement à 10 cm de haut maximum, hein. Donc c'est à partir de ce moment-là, vous faites un surfaçage, vous faites un arrosage régulier, mais pas excessif. Les sauges craignent plus l'excès d'humidité qu'un petit coup de sécheresse. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention que ça sèche entre deux arrosages. Vous faites un très, très, très léger petit apport d'engrais. J'ai dit bien très, très léger parce que là aussi, les sauges ne sont pas des grosses mangeuses d'engrais. Donc, vraiment, un petit apport de compost en surface suffira largement, au moins dans un premier temps. Et normalement, si tout va bien, ça va redémarrer à fond. Faites attention si on annonce du froid, surtout du froid, nocturne, eh bien ressortez vos voiles d'hivernage et protégez-les pendant encore un petit mois ou deux, enfin peut-être pas un mois ou deux, faut pas exagérer, mais pendant une bonne quinzaine de jours, hein, les sangs de glace sont toujours pas passés, ouais. Donc voilà, et dans ces conditions-là, vous aurez des très belles sauges qui vous raviront encore une fois, parce qu'effectivement, les variétés dont vous avez parlé sont des très jolies variétés de très belles sauges.
Voilà, très joli choix, Maria, on vous souhaite un très bon week-end, merci d'avoir posé votre question. Aziz est à Saint-Jacques-de-la-Lande, bonjour.
Oui, bonjour à tous les deux. Voilà, je voulais poser la question à Philippe, s'il vous plaît. Ouais. À quel moment qu'on peut mettre de l'engrais de rosier? Et j'ai quelques feuilles qui sont grignotées.
Ouais.
Et j'ai du marc de café. Est-ce que je peux le mettre au pied, s'il vous plaît?
Alors, les rosiers, la solution.
Déjà, moi, je suis pas le fanat des engrais. Hein, même, donc, on peut éviter de mettre... Si vous avez... du compost, vous pouvez mettre que du compost au rosier et ça fait des très belles floraisons et des très beaux rosiers. Hein, donc on n'est pas obligé de mettre de l'engrais, on peut mettre que du compost, ça suffit largement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, le marc de café, eh bien c'est une forme de compost. Donc vous pouvez l'utiliser si il est bien comment dirais-je, oxydé. Donc, faut pas mettre du marc de café du matin même. Il faut que ça soit un marc de café qui est au minimum une bonne quinzaine de jours, hein, qu'il est oxydé, qu'il ait pris la lumière, la chaleur, le soleil, etc., hein, de manière à casser la caféine, parce que la caféine, c'est pas terrible pour nous, mais c'est pas bon pour les plantes non plus. Donc, il faut que cette caféine, eh ben, elle soit cassée par l'oxydation. Donc, vous laissez votre marc au moins 15 jours dehors, s'aérer un petit peu avant de le mettre au pied des rosiers. Et puis, la troisième chose, les feuilles grignotées, bah, surveillez un petit peu pour voir la bébête qui s'en occupe. Soit vous l'écrasez entre les doigts, soit c'est juste une limace et vous l'écrasez ou vous la donnez aux poules. Mais bon, il y a toujours quelques feuilles grignotées sur un rosier. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas la peine de chercher à faire quoi que ce soit.
Voilà donc pour ces conseils. On continue à vous accueillir ce dimanche, même si c'est dimanche de Pâques. Allez, avant de déguster l'agneau pascal, vous avez le temps de poser votre question à Philippe. Il y a de la place ce matin. 02 99 67 35 35.
Et les petits œufs en chocolat?
Ah oui, les petits œufs en chocolat, faut aller les chercher, c'est vrai, ouais. Bon bah on y va alors. On fait attention de pas abîmer les plantes hein, dans le jardin. Pour l'instant, une belle plante sur France Bleu Armorique, c'est Dido avec White Flag. Très très bon week-end, merci de le passer avec nous sur France Bleu Armorique. White Flag sur France Bleu Armorique. France Bleu.
48 ans après sa victoire à Colombes, le Stade Rennais Football Club veut aller chercher la coupe au Stade de France à Paris, samedi 27 avril.
Je m'appelle André Guy, c'était surtout quand on avait gagné Marseille, c'était l'euphorie. Jusqu'à 4h du matin, dans les rues de Rennes, il y avait des klaxons, les gens étaient dans les bars, ça a été vraiment quelque chose de formidable. À l'époque, j'ai beaucoup apprécié Monsieur Prouf, qui était entraîneur, voilà. Bah, au retour de Paris, bon, ça a été aussi l'euphorie, je crois. On avait mis 2 heures pour aller de la gare à l'hôtel de ville. C'était un très très bon souvenir. Cette année 2019, Rennes a fait un bon parcours, là, hein. Bah, déjà, pour gagner à Lyon, c'est pas évident, hein. Comme d'habitude, on a le PSG qui est au bout, quoi, hein, puisqu'il domine le championnat de la tête et des épaules, quoi. Bah, je leur souhaite bonne chance, bien sûr, puis je regarderai, et puis je serai là en tant que supporter, mais devant la télé.
Le Stade Rennais en route pour le Stade de France avec France Bleu Armorique.
Savez-vous où l'on affine le roquefort ? Dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, un village accroché au flanc de la montagne du Combaloup. C'est ici, et ici seulement, que se trouvent au cœur de la roche les caves d'affinage du roquefort. Venez les visiter les 8 et 9 juin à l'occasion de l'événement Roquefort, un territoire en fête.
Plus d'informations sur roquefortenfête.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
France Bleu Armorique. France Bleu. Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et même en ce dimanche, Pascal, on accueille toutes vos questions sur France Bleu Armorique. Gérard est à Loya. Bonjour.
Bonjour.
Gérard. Oui,
bonjour Daniel. Bonjour Philippe.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, j'ai ma fille qui est partie aux Maldives.
Ouais.
Voyage de noces.
C'est bien.
Et puis, elle m'a ramené des bulbes. Et puis, j'en ai surtout un, là. Il a la forme d'une figue. Vous savez, des figues.
Oula. Il y a madame qui donne un coup de main. D'un avocat, elle dit, je crois.
Non, c'est pas un avocat, c'est en forme de figue.
Vous fâchez pas. Alors, le problème, c'est que vous voulez le planter ici en Bretagne, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais.
Est-ce que ça va s'adapter ? C'est un peu la question, non ?
Alors, oui, puis ça, comment, quoi, le mettre, si je le mets, parce qu'on dirait qu'il y a des graines dedans, à l'intérieur.
Oh, c'est un cadeau piégé, ça, alors, peut-être.
Ouais.
Bon, alors.
De toute façon, toutes les plantes à graines peuvent germer. Par contre, de là à le mettre dans le jardin, il ne faut quand même peut-être pas rêver non plus. Hein. Le réchauffement climatique est en cours, d'accord, mais d'ici à ce qu'on ait le climat des Maldives, vaut mieux éviter, parce qu'en plus, on aura l'élévation du niveau de l'eau et il n'y aura plus de Maldives. Donc, on va espérer qu'on va empêcher tout ça. Voilà, qu'il ne fasse pas trop chaud en Bretagne et qu'il ne fasse pas trop, chaud aux Maldives. Et puis, ce que vous pouvez faire, en fait, si vous n'avez qu'un seul fruit ou vous en avez plusieurs ?
J'en ai d'autres là, et j'en ai un autre, c'est un peu la forme d'un glaïeul. Vous voyez ? Alors, le bulbe d'un glaïeul. Il y a des petites racines qui ressortent, là, comme un glaïeul.
Bon, vous le plantez comme un glaïeul, mais au lieu de le mettre en pleine terre dans le jardin, vous le mettez dans un pot, vous le sortez sur la terrasse, et puis faudra sans doute, quand il sera en fleur, ce que vous faites, vous m'envoyez une photo, comme ça je vous dirai si c'est une plante qu'on peut laisser dehors ou pas, ce qui m'étonnerait un petit peu quand même. Et puis, dans ce cas-là, il faudra rentrer le pot l'hiver, ou simplement arracher les cormes, parce que les bulbes de glaïeul s'appellent des cormes, donc arracher les cormes, les faire sécher, les garder dans le garage ou dans un endroit qui soit hors gel, évidemment, et qui soit bien sec, et puis vous les gardez tout l'hiver et vous les replantez au printemps suivant, et c'est reparti pour un second tour. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le fruit qui ressemble un peu à un avocat ou à une figue, peu importe, s'il y a plusieurs graines dedans, moi, ce que je ferais, si j'étais vous, c'est que j'en sèmerais une moitié maintenant, et puis j'essaierais d'en mettre une autre autre partie pendant une semaine au frigidaire et les semer après, hein, parce que souvent le coup de froid va, incite les plantes à démarrer, oui, ça lève la dormance. Vous tentez le coup sur les deux, puis éventuellement, à l'inverse, vous en prenez quelques-unes et vous les mettez une semaine au contraire dehors au soleil, hein, vu qu'il y en a en ce moment, il faut en profiter, ça n'a pas duré. Et puis vous les semez, alors il ne faut pas les enterrer trop profond, hein, une graine, ça ne s'enterre jamais de plus de 3 fois sa hauteur, hein, donc il ne faut pas aller trop profond. Vous mettez ça dans un bon terreau moyen, vous arrosez, et puis ce qui vient, bah, tant mieux, vous le replantez, vous le repiquez, toujours pareil, vous le gardez dehors pendant la belle saison, et fin septembre, début octobre, vous le rentrez à la maison, de manière à ce qu'il ne risque pas de mourir de froid.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et ben voilà, Gérard, vous avez du travail, de l'occupation, avec ces bulles. Bon week-end à vous, merci pour votre question. Bertrand est à Nivillac, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes aussi dans l'exotisme avec les citrons, c'est ça?
Voilà, oui, on a semé des citronniers,
ouais,
il y a 3 ou 4 ans, et ils sont dans une grande jardinière, et maintenant ils atteignent 50 cm, pour un diamètre d'environ 1 cm à la base, on voudrait les replanter dans des pots individuels.
Ouais. Oui, à quel moment le faire, comment il faut faire, à quoi il faut faire attention.
Voilà.
Et ben, on va vous dire ça, Philippe.
Je vous remercie.
En fait, déjà, première chose, les graines que vous avez semées, c'est des citrons que vous aviez mangés et vous avez ressemé les graines.
Mais tout à fait.
Bon. Donc, ce ne sont pas des citronniers. Il y a très peu de chances pour que ça soit des citronniers.
Hein,
ce qui est reparti, c'est pas le fruit, c'est le porte-greffe. Et le porte-greffe d'un citronnier, c'est pas forcément un citronnier. Alors, dans la plupart des cas, quand c'est des plantes qui ont été cultivées en France, d'une manière générale, en France, c'est une plante qui s'appelle le citronnier ou l'oranger de Chine, hein, qui s'appelle Poncirus. Et qui est une plante magnifique d'ailleurs, avec des grosses épines. Donc on voit
ils ont des grosses épines.
Bon voilà, il y a des chances que ce soit des poncirus. Alors les poncirus, c'est très joli. Hein.
Bon, par contre,
c'est très piquant.
Belle, hein.
Hein, c'est très piquant.
Très
jolis,
oui.
Ouais. Et ça fait des très belles fleurs. Bah, cette époque-ci, mais pas cette année, évidemment. Avant l'année prochaine ou dans 2 ans.
Oui.
Mais c'est très très piquant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est greffer dessus. Un greffon de citronnier. Et là, d'après la taille que vous m'avez donnée, ils sont exactement à la bonne taille pour être greffés. Donc, ce qu'il faudrait trouver, c'est quelqu'un qui a un citronnier bien établi.
Oui.
Et la greffe, c'est une greffe que l'on fait en général. Le peu de greffe qu'on fait en plein été, hein, c'est une greffe qu'on fait en général aux alentours du 15 août, hein, entre mi-août et mi-septembre. Hein, c'est la meilleure période pour greffer les agrumes. Et là, donc, si vous trouvez la personne qui a un beau citronnier et qui veut bien vous donner des greffons, eh bien, sur vos petits porte-greffes, hein, que vous pouvez tout à fait replanter individuellement dans des pots maintenant, c'est une très bonne période. Et en plus, ça vous permettra de les greffer encore plus facilement. Donc, ça sera vraiment tout bénef pour vous. Et après, vous aurez non plus un citronnier, mais 5 ou 6 vrais citronniers.
Eh ben, voilà, vous lancez dans la production de citron, Bertrand. Ben, en tout cas, bon courage. Et bonne explication. En tout cas, c'est bon à savoir que si vous semez les pépins d'un citron, c'est pas un citronnier forcément qui va arriver. Aline, à Pont-Orson, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Aline?
Ça va.
Bon, qu'est-ce que...
Bonjour, Philippe.
Voilà, bah surtout bonjour Philippe, hein,
bah
parce
oui,
que c'est lui qui va vous répondre, c'est pas moi. Alors, posez votre question.
Ben voilà, j'ai un yucca, il est plein de pucerons. Je suis allée dans une jardinerie, il m'a vendu un truc anti-puceron. Hein. On l'a fait 2 fois avec mon mari, enfin c'est surtout lui qui l'a fait. Et j'ai toujours plein de pucerons. Ça fait au moins 2 mois que ça dure.
Bon.
Qu'est-ce que je fais?
Bon, alors d'abord vous avez dû acheter un produit qui n'est pas valable, a priori, en tout cas.
C'est cher en plus.
Ah bah oui,
ça n'a aucune relation. Hein.
Ouais, non, mais...
Malheureusement, non. Bon, alors, première chose, quand on a des pucerons sur n'importe quelle plante, la première chose que l'on fait, c'est de les enlever à la main. Même si c'est pas très agréable, c'est quand même le plus rapide. On les décolle, les pucerons, ils sont fixés sur la plante par une très fine aiguille qu'on appelle un rostre et qui leur permet de piquer la plante et de sucer la sève. Donc, ils ne sont pas très, très bien fixés. Avec la main, vous passez, vous mettez un gant si vous n'aimez pas l'idée de le faire. Vous mettez, et hop, vous passez la main dessus. vous le vous rincez sous l'évier, ouais. Voilà, vous le rincez sous l'évier et ça en fait déjà 80% qui sont partis. Et pour la finition, vous passez avec une éponge et de l'eau savonneuse et normalement le problème est réglé. Hein. Donc vous faites ça peut-être 2 ou 3 fois de suite et c'est terminé. Si et seulement si vous faites très attention à ne pas trop arroser votre yucca, ne pas lui donner d'engrais parce que ça n'a pas besoin d'engrais et de faire attention à ce qu'il ait un petit peu de comment dirais-je, de fraîcheur, alors pas trop souvent parce que c'est une plante de milieu désertique le yucca, mais un petit peu de fraîcheur, donc vous pouvez le pulvériser avec de l'eau de pluie évidemment, 2-3 fois par semaine, ça lui fera du bien et les pucerons ont horreur de ça, donc comme ça vous allez et lui faire plaisir et empêcher les pucerons de revenir et en faisant simplement ça vous réglez le problème, ça vous coûte pas cher et voilà et vous polluez pas l'intérieur parce que à chaque fois que vous mettez un produit et ben vous polluez l'intérieur de votre maison qui est sait malheureusement plus pollué que l'air extérieur donc faut faire attention à l'air qu'on respire dans nos maisons.
Il faut aérer
parce que j'ai plein d'autres plantes vertes mais il y en a enfin je l'ai un peu isolé quand même hein, avec ces pucerons là au début. J'ai dit, ça y est, les autres vont en avoir. Non.
Eh ben non. Donc.
Ben écoutez, c'est. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de pucerons qui sont spécifiques à des plantes. Hein. Donc, vous devez peut-être, par coup de pas de chance, récupérer le puceron spécifique du yucca. Et donc, il se reproduit que sur le yucca, tant mieux pour vous.
Oui, mais c'est mieux que si toutes les plantes étaient.
Mais du coup, pour le yucca, il faut quand même supprimer les pucerons.
Et ben voilà, en tout cas, merci Aline, bon week-end à vous, continuez à nous joindre, puisque ça y est, les lignes sont à nouveau libres, 02 99 67 35 35, Jardin Bleu jusqu'à 10h.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Il faudrait être des dieux. Il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais
Ben voilà, un moment qui va bien avec ce duo Claudio Capeo, Kenji Girac sur France Bleu Armorique.
Ah, Chantal là-dessous, vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ?
160 000 vérandas.
Non, mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous ?
Non, je viens du Nord, et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriqués. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas, vous rendez compte ? Ils savent de quoi ils parlent chez Akena, ah oui. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
France Bleu Armorique. France Bleu. Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on va continuer vos questions avec évidemment des réponses, on le souhaite pour vous. Var Joël qui est à Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour Joël.
Bonjour.
Alors, oui. On vous écoute.
J'ai un chèvrefeuille et les feuilles sont blanchâtres. Et après, il s'abîme et il ne fleurit plus après. Donc, j'aimerais savoir ce qu'il faut mettre, s'il faut mettre du savon noir, enfin, je sais pas.
Ouais.
Il est exposé est-nord, quoi. Il est dans un coin, quoi. Peut-être il est mal exposé, je sais pas.
Il est jeune, il est vieux, ce chèvre.
Il a 3-4 ans.
3-4 ans, d'accord. Philippe, alors, ça pourrait venir de quoi ?
Alors, suivant les variétés, certains chèvrefeuilles sont très sensibles à l'oïdium. Et
oui,
la description que vous en faites, c'est malheureusement de l'oïdium, a priori. Donc, l'oïdium, on va dire, le traitement le plus courant, c'est le soufre. Donc, sachant qu'on n'est pas obligé de poudrer comme on faisait autrefois quand j'étais gamin, on mettait de la poudre de soufre dans tout le jardin, ça se faisait horriblement, c'était affreux.
Oui.
Il existe maintenant du soufre liquide, donc on met la quantité, alors sachant que sur les emballages vous avez la quantité maximale autorisée, donc pour être à la quantité optimale, très souvent on est plutôt vers la moitié de la maximale, donc vous commencez par diviser les doses par deux, ça se dose très facilement, hein, et donc vous pulvérisez votre chèvrefeuille avec ça. Normalement, ça doit arranger le coup très rapidement. Si vous êtes sensible au soufre, et je connais pas mal de gens, dont moi, qui sont très sensibles au soufre, je ne mets jamais de soufre dans mon jardin, parce que je souffre trop. Voilà. Et du coup, je fais un traitement à simplement l'eau savonneuse et bicarbonate de soude, et ça marche pas mal non plus.
Mais quelle quantité ?
Alors, une cuillère à café rase de bicarbonate de soude.
Une cuillère.
À café rase, hein, je précise bien, rase.
À café rase. Oui.
Par litre d'eau.
Par litre d'eau.
Et dedans, vous mettez une cuillerée à soupe de
je note, hein, parce qu'après...
Mais sinon, vous...
Un certain âge, après, je ne m'en rappelle plus.
Après, vous pouvez réécouter l'émission.
Réécouter l'émission.
Une cuillère à café rase par litre d'eau, alors, après... Ouais.
Et une cuillerée à soupe de savon noir par litre d'eau aussi. Voilà,
soupe.
Vous mélangez bien et vous pulvérisez 3 jours de suite.
De
et normalement,
noir.
C'est bon.
Et je mets un peu de bicarbonate. De...
Ah ben les deux, vous mélangez les deux dans un litre d'eau. Vous mettez une cuillère à café et rase et une cuillerée à soupe de...
Ah d'accord, ouais, voilà, j'ai compris.
Vous mélangez les deux et hop, vous arrosez.
D'accord. Bon bah c'est tout est noté.
Et vous faites attention à bien passer sous les feuilles.
Vous faites un bon week-end et puis profitez du soleil.
Merci vous aussi, merci de votre question. Joël, bonne journée. Annette, à la Chapelle Thoiraux, bonjour.
Bonjour. Voilà, ma question concerne un pommier que nous avons qui a je dirais 15-18 ans. Et l'écorce s'en va, craquelle tout autour du tronc. Et donc je vois le bois, le vrai bois du pommier, et qui est aussi fendillé. Alors ça m'inquiète. Alors je ne sais pas quoi faire.
Alors malheureusement, il n'y a rien à faire. Voilà, comme ça, c'est ça, la tout de suite, c'est réglé. Ça, voilà, c'est l'annonce qui fait mal, mais c'est comme ça. Effectivement, un certain nombre de... Alors, ça peut être soit des phénomènes physiologiques, et particulièrement des alternances de chaud et froid, et des alternances de sec et d'humide, hein, ce qui est malheureusement de plus en plus courant en Bretagne, vu les effets du changement climatique. Et ça, ça fait effectivement que quand il fait très chaud, le bois se rétracte. Et puis si tout d'un coup il pleut, eh bien la plante elle se met à absorber énormément d'eau, mais ça fait éclater le bois, parce que le bois, lui, il est lent à se réouvrir, donc il éclate, et ça fait éclater l'écorce et le bois. Ça, c'est... Et puis il y a aussi des attaques, alors ça peut être des insectes, des choses comme ça, mais quand le bois se décolle, l'écorce se décolle de l'arbre, en général, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Alors vous pouvez tenter le coup, quand même, si tout n'est pas éclaté, de cicatriser déjà avec de l'argile. Vous faites une bonne argile bien grasse, hein. Vous badigeonnez toute la partie où vous voyez le bois, et toute celle où l'écorce tient encore, vous badigeonnez bien. Et puis pour éviter les effets de yo-yo, hein, pour éviter que le bois ne chauffe trop pendant l'été, vous pouvez entièrement badigeonner le tronc et la base des grosses branches avec du blanc arboricole, et vous le mettez au-dessus de l'argile. Et puis vous croisez les doigts en espérant que vous pourrez sauver votre pommier. Mais malheureusement, c'est commencé comme ça.
Ouais, c'est pas bon signe. Voilà.
Non, c'est pas bon signe. Mais on peut tenter le coup quand même, ça fait pas de mal, et des fois ça marche.
Bon, alors donc on va se consoler avec cette idée, on va y croire pour vous, Annette, merci. Et très bon week-end à la chapelle Thoireau. Nous allons à une autre chapelle, la chapelle de Brun, maintenant, avec Janine, bonjour.
Bonjour tous les deux. Oui, c'est mon Wilburnum, là qu'on dit les boules de neige, là, il y a des petites bête noire, je sais pas quoi, toute petite, au milieu de la boule, quoi. Et j'avais ça déjà l'année dernière. Et cette année, ils ont beaucoup poussé en hauteur, hein, à cause du temps. Et bon, quelqu'un les a coupés, c'est-à-dire mon fils, j'étais désolée. Mais bon, il y a toujours des boules, hein, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un traitement pour...
S'il y a des bestioles dedans, est-ce qu'elles font des dégâts?
Oui.
Parce que des insectes dans une fleur, c'est pas gênant. C'est, si elles viennent récupérer du nectar, c'est leur boulot. Elles ont
ça à foutre. Non, c'est pas. Hein, c'est comme ça. C'est au fond, quoi. C'est tout petit.
Non, mais est-ce qu'elles mangent la fleur? Est-ce qu'elles font des dégâts sur la fleur?
Ça dessèche, oui. J'avais vu ça l'année dernière. Ça desséchait, quoi. Ouais. Bon. Non, vous n'avez jamais entendu parler de ça dans le Wilburnum.
Sur le Wilburnum, moi je connais la chrysomèle de la Viorne, hein, qui est un petit coléoptère qui vient pondre ses œufs, mais ce sont les larves, hein, qui sont des petites larves tachetées. Ça, ouais. C'est les larves, mais elles sont pas noires, elles sont tachetées, hein, elles sont plutôt crème tachetée de rayées, tachetées de noir, et elles bouffent les feuilles, hein, elles dévorent les feuilles. Donc on les repère tout de suite parce qu'il n'y a plus de feuilles, hein, il n'y a plus que les nervures.
J'en ai vu l'année dernière, ça se recroquevillait, un peu comme dans le pêcher, là, vous savez, les feuilles, oui, c'est ça, oui.
Des petites bêtes noires qui... Non, c'est pas du tout la même chose. Non, là, c'est vraiment, ça bouffe toutes les feuilles, sauf la nervure. Si vous avez des insectes qui se baladent dans une fleur, je veux dire, c'est normal, chez eux, les fleurs, hein, c'est normal. Donc, moi, je veux bien que vous m'envoyiez des photos, hein, pour voir s'il y a des dégâts, mais a priori, je vois pas pourquoi, s'il n'y a pas de grosse consommation, c'est qu'on leur fiche la paix, elles sont chez elles, hein, le jardin leur appartient aussi.
Oui, c'est s'il n'y a pas de danger autour, il n'y a pas de raison aussi de supprimer toutes les petites bêtes. Et c'est vrai qu'on le rappelle, elles servent à...
Elles sont même très importantes.
Pour l'écosystème, évidemment. Écoutez, Janine, en tout cas, si vous avez le temps, tranquillement, de prendre une petite photo, et puis en essayant de prendre un gros plan, hein, pour qu'on voit les petites bêtes, et puis vous allez sur la rubrique Jardin Bleu, Philippe Munier, France Bleu Armorique, et puis vous avez une petite enveloppe là pour envoyer un courrier. Et puis après, vous faites faire ça par quelqu'un de la famille qui vous poste la photo. On va faire une pause, nous. Et puis, on a le temps, je crois, encore d'accueillir les deux questions, je pense. 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique. 02 99 67 35 35.
Et il fait déjà, oh là, au moins 17 degrés à Belle-Île-en-Mer.
Belle-Île-en-Mer, Marie Galante.
C'est vraiment une belle chanson. Belle île en mer, Marie Galante et bien sûr Laurent Voulzy.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et ce sont déjà vos dernières questions qui arrivent sur France Bleu Armorique. Et on est à Rennes avec Patrick. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors Patrick.
Mon problème est tout simple. J'ai un plein de bagots depuis plusieurs années qui fleurissaient bleu. Et depuis 2-3 ans, il fleurit tout blanc. Je ne sais pas d'où cela
part. Ah, tiens donc, c'est un peu comme les hortensias, ça dépend du sol ça, Philippe.
Il est en pot. Il est à l'année dehors.
D'accord.
Dans le jardin. Alors.
Normalement, il y a effectivement deux couleurs pour le plein bagot, hein, qui est bleu clair et blanc, mais normalement, ce sont deux variétés différentes. Donc, l'un passe du bleu au blanc. Il y a peut-être une question de nutrition, effectivement, une petite carence dans le sol. Oui, peut-être. Mais j'ai jamais. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais bon, peut-être.
Il a fait pendant 2-3 ans bleu, et puis depuis 2-3 ans, il fleurit tout blanc. C'est bizarre.
Et vous en occupez, vous lui mettez des choses spéciales dans le pot ou rien du tout?
Rien, c'est vrai, je ne mets rien du tout.
Ah, peut-être que.
Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un petit problème de carence.
Faudrait-il lui apporter, par exemple?
Déjà, si ça fait, si je comprends bien, 6 ans qu'il est dans le même pot et qu'il n'a rien eu, je crois que ce qui serait bienvenu, en plus, une bonne période pour le faire et une belle journée pour le faire, c'est de le rempoter et lui ramener un mélange composé d'un tiers de compost, d'un tiers de sable grossier et d'un tiers de bonne terre de jardin.
D'accord.
Voilà, vous lui mettez ça, et puis je pense qu'il vous remercie, vous le taillez un petit peu, parce qu'ils ont besoin d'être taillés maintenant. Vous l'arrosez évidemment, parce qu'on arrose toujours une plante qu'on vient de rempoter. Mm-hmm. Et puis derrière, je pense qu'il va vous remercier en faisant des belles fleurs bleues.
Il va revenir au bleu peut-être.
Ah, il devrait retrouver sa couleur initiale.
Je pense que c'est un problème de carence. Hein. Il y a un petit manque qui fait qu'il n'arrive plus à fleurir bleu.
Voilà donc, Patrick. Je vous en prie, on est là pour ça, Patrick.
Je vous souhaite un beau week-end, Pascal.
Nous aussi, profitez bien de ce beau week-end avec ce soleil.
Bon, merci.
Au revoir. À pleine haute, nous avons Germaine. Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, merci pour votre émission qui est formidable.
Mais vous aussi, vous êtes formidable. Hein si, on vous le dit, hein, Germaine. On dit Germaine. Moi, j'ai entendu dire du côté de Plaine-Haute, Germaine, elle est formidable. C'est vrai, hein. Alors, vous êtes formidable, mais vous avez un problème avec les arômes, c'est ça?
Alors, tous les ans, j'ai de magnifiques arômes. J'en suis très contente. Sauf que, souvent, presque tout le temps, ces petits arômes ont l'air d'être mangés par quelque chose. Je parle de la fleur, hein.
Ouais.
Et du coup, le bord de la fleur est noir.
Mm-hmm.
Et je ne vois pas de bébêtes.
Elles sont là quand vous dormez, peut-être. Les bébêtes.
C'est ce que je crains, oui. C'est ce que je crains. Et très souvent, ce sont les petites limaces qui adorent manger le bord de l'arôme et qui montent pendant la nuit tranquille.
Mais j'en vois pas, c'est bizarre. Hein.
Mais non, c'est parce qu'elles montent la nuit.
Ah,
et puis à l'aube, elles redescendent, elles vont se cacher au pied de l'arôme, et puis elles digèrent tranquillement en attendant la nuit suivante.
Vous pouvez mettre votre sac de couchage, si vous voulez, à côté des arômes pour la nuit.
Oui, c'est une solution, j'y ai pensé, oui.
Voilà. Mais sinon, donc, qu'est-ce qu'on peut? Il n'y a pas de prévention.
Soit on supporte la chose, on ramasse les limaces, on met un horrible produit qui les tue. Bon, après, c'est à vous de voir.
On m'avait dit, je dis peut-être des bêtises, que mettre un peu de cendre autour des plantes, les limaces, elles n'aiment pas trop.
Alors, si la cendre reste sèche, ça marche.
Ouais, c'est ça.
Mais voilà, tant que c'est sec. Voilà.
Oui, d'accord, je vais essayer ça.
Bon, tenter le coup, voilà. Oui. En plus,
donc,
de toute façon, même si ça marche pas. Pour moi, c'est des limaces. De toute façon, même si la cendre, ça marche pas, ça amènera de la potasse à l'arôme, lequel sera beaucoup plus joli en fleurs. Alors, vous voyez, quoi qu'il arrive, ça marchera dans le jardin, ça fera quelque chose de bien dans le jardin.
Bon, pour une fois que j'ai pas dit des bêtises, ça va. Merci donc, Germaine. Très bon dimanche à vous toutes et vous tous. Voilà, on va arriver au terme de l'émission. Mais avant, on a plein de choses à dire parce que c'est la fête des jardins et chez Cochâteau de Pomorieux notamment, il y a un joli rendez-vous ce week-end.
Absolument. Donc c'est le deuxième jour, faites gaffe, hein, ce soir c'est fini. Ouais. Hein, donc si vous avez l'occasion d'aller vous balader du côté de Trévenoc, hein, c'est pas loin de Saint-Quay-Portrieux, c'est dans ce secteur-là.
Ouais, c'est
très beau, vous pouvez, c'est un très joli cadre, le château de Pomorieux, c'est très sympa. Et puis il y a un très très beau parterre de pépiniéristes, mais pas que. Il y a aussi des artistes qui font de la décoration de jardin. Il y a des associations, beaucoup d'associatifs, mise en valeur des associations. Ça c'est vachement bien.
Des abeilles aussi, je crois. On s'occupe des abeilles.
Voilà, aujourd'hui on s'occupe. Enfin cette année on s'occupe des abeilles. Donc il y a un thème un peu tous les ans. Donc cette année c'est les abeilles. Et puis si vous n'avez pas le temps, ne vous lamentez pas. De toute façon la semaine prochaine il y aura encore des choses bien. Et par exemple Nord-Bretagne du côté de Saint-Briac, même à Saint-Briac même, oui. Il y aura Vue sur Vert.
Oui,
et puis au sud, à Redon, il y aura les Végétal Passion. Donc vous voyez, il y a encore des moments pour aller acheter des belles plantes, côtoyer des pépiniéristes, leur poser des questions sur les plantes qu'ils ramènent ou qu'ils récupèrent à droite à gauche et qu'ils cultivent avec amour et passion le plus souvent.
Voilà, tout comme vous, mon cher Philippe, vous répondez avec amour à toutes ces questions. Et donc
et passion aussi.
Allez, alors on vous laisse vite aller chercher des oeufs au chocolat, j'ai que vous êtes gourmand.
Ben oui, puis j'ai peur qu'ils fondent.
Ben c'est ça, avec le soleil,
ça commence à chauffer,
pas des températures pour le chocolat, tout ça. Moi, il faut les manger tout de suite. Bon week-end, Philippe, à la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
France Bleu. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit discret, efficace et payé le moins cher possible. Avec Chin Chin Connect et pour 1€ de plus, votre équipement auditif est relié directement à votre téléphone.
Chin Chin Connect d'Afflelou, c'est jusqu'au 30 juin sur les modèles de la gamme Incognito. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à notre audioprothésiste, voir les conditions en magasin.
France Bleu Armorique.
Quelques instants, le point sur l'actualité avec le Maxime Bossonnet.
J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant.
Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles.
Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
les restes, et c'est un peu comme l'avenue Janvier aujourd'hui, boulevard désert. Bon dimanche sur France Bleu Armorique, il est 10h. Le journal, Maxime Bossonnet. 150